Bonjour et bienvenue à Scal 17-18 avec Fulgence Plat au micro et Maurice Bolduc à la technique. Oui, c'est lundi, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Louise Thibault sera là pour nous parler de nutrition. Nutrition cette fois-ci de la température corporelle et de ses multiples effets sur notre état d'éveil. Voilà, docteur en nutrition, elle va parler aussi de suggestions de livres pour célébrer le printemps. C'est ce qu'elle a pour nous aujourd'hui. Les détails un peu plus tard, juste après la petite pièce, la première pièce musicale. Et en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Chantal Cadieux, qui est scénariste et présidente de la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma, la SARTEC, pour nous parler des finalistes du prix Jacques Marcotte du meilleur scénario de long métrage de fiction francophone 2022. Alors, sans perdre de temps tout de suite, c'est la première pièce musicale avec Julie Johnson, Missing You. Jerry Johnson, Missing You. Voilà, comme je le disais, en plantant le décor de l'émission, c'est lundi, oui, donc c'est la chronique de nutrition avec Louise Thibault qui va nous parler de la température corporelle et de ses multiples effets sur notre état d'éveil. On ne parle jamais trop de la température corporelle.
Comme ne le dit pas la chanson, mais bon, voilà, j'ai emprunté un petit peu à magnifique chanson.
Bonjour Louise.
Bonjour Fulgence.
Alors, c'est
le printemps ?
C'est oui.
Ouais, c'est le printemps, donc on parle de la température corporelle en ce qui me concerne.
Oui, on y va. Je te laisse partir tout de suite, là. Je te laisse le micro.
Et puis j'aurais des suggestions de lecture pour célébrer justement cette belle saison qui commence.
Oui, tu as deux suggestions de livres à nous pour célébrer le printemps, quoi, là, à nous faire découvrir.
Bah oui, il faut avoir toutes sortes de lectures. Donc, voilà, je vais vous surprendre un peu aujourd'hui, mais on y arrivera à la fin de ma chronique. Donc, comme je l'ai déjà dit et je le redis, notre corps fonctionne de façon rythmique.
Oui.
On a des rythmes biologiques et je vous ai déjà parlé de certaines hormones qui varient de façon rythmique. Je vous fais un petit rappel, l'insuline, qui est une hormone très très importante pour utiliser les sucres, varie selon des rythmes bien prévisibles, ainsi que la leptine. La leptine, ben, c'est une hormone dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est super importante pour ressentir la satiété. Alors voilà des exemples de rythmes biologiques que nous avons, mais il y a un autre rythme dont on parle moins, mais qui est très connu par les scientifiques, c'est le rythme de notre température corporelle.
Oui.
Donc notre température corporelle, un peu comme la température de notre environnement, ben ça varie. Ça varie selon l'heure de la journée.
Oui.
Et la température de notre corps, ben, elle atteint son maximum vers 20h, le soir évidemment, et elle diminue graduellement au cours de la soirée pour atteindre un minimum au milieu de la nuit.
Ok, c'est ça qui nous permet de bien dormir, quoi.
Ben, en fait, oui, dans un certain sens, tu as tout à fait raison, parce que la science a montré que la diminution de notre température corporelle au cours de la soirée,
oui,
ça agirait comme un signal qu'il est temps d'aller se coucher.
Oh oui, de tomber dans les bras de Morphée.
Ah, c'est ça, de tomber dans les bras de Morphée.
Alors, et ceux qui dorment avec des draps chauffants, des matelas chauffants, comment ils...
Ah ben là, je ne sais pas si ça peut avoir un effet néfaste, un effet négatif.
C'est ça.
Okay. Mais il reste que la température, notre température corporelle interne, elle va diminuer.
Oh oui, ça n'a rien à voir avec les draps chauffants, les matelas chauffants, tout ça.
C'est programmé.
Et c'est
important aussi de savoir que si vous souffrez d'insomnie, eh bien, il se pourrait que ce soit en raison de la baisse de température qui est moins prononcée chez vous.
Ah.
Donc, oui, chez les insomniaques, la baisse de température, elle est moins prononcée que chez les personnes qui dorment bien.
Oui.
On appelle ça aussi les somniaques.
Comment ils remédient, Louise?
Ouais. Alors, j'ai une question pour vous qui nous écoutez, et pour toi, Fulgence aussi.
Mm-hmm.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé en plein après-midi, en plein jour, de t'endormir au point de ne plus pouvoir te concentrer sur ce que tu faisais, d'avoir un coup de barre ou de, comme on dit communément, de cogner des clous? Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou est-ce que ça t'arrive de temps en temps?
Non, moi, pas de temps en temps, non, mais ça m'est déjà arrivé. Si j'ai trop mangé, c'est ce qui fait que la plupart du temps, le repas de midi, c'est un petit quelque chose que je pense. Si je mange beaucoup à midi, bon, ben, c'est les coups de barre.
C'est les coups de barre, comme on dit. Ça arrive habituellement après le repas du midi.
Oui. Mais c'est pas régulier, c'est pas une régularité. Quoi,
c'est pareil. Ben, certains.
Ça m'est déjà arrivé. Si j'ai dit non, je suis un menteur.
Ouais, bon. Mm-hmm. OK. Alors, merci de ta franchise.
Ouais.
Il y a certaines personnes à qui ça arrive immanquablement,
oui,
après le repas du midi ou au beau milieu de l'après-midi. Et c'est un phénomène qui peut être très embarrassant. Moi, j'ai connu des personnes qui, en pleine réunion, tombaient endormies, pas nécessairement parce que ce que je disais n'était pas intéressant, mais parce qu'ils ne pouvaient pas résister contre l'endormissement.
Ils somnolent.
Ah, Essonnol, c'est ça. Ça peut être carrément dangereux parce qu'on a prouvé que ça provoquait des accidents.
Oui, il y a des gens qui s'endorment au volant.
Ben, c'est ça, oui. Mm-hmm. Alors, c'est un phénomène tout à fait normal. Mm-hmm. Mais il y a des personnes qui le ressentent plus fortement que d'autres.
Oui.
Il y a plusieurs explications pour ce phénomène. Et une des explications, ça réside justement dans le rythme biologique de notre température corporelle.
Wow.
Pourquoi ça? Ben, parce que vers le début de l'après-midi, il y a une certaine diminution de la température de notre corps.
Oui.
Et ça agit comme un signal qu'il est temps de dormir. Donc, s'endormir après le repas du midi ou au milieu de l'après-midi, c'est un phénomène normal et c'est dû à un creux, un gros creux de notre température corporelle. Alors, si notre température corporelle varie significativement, elle diminue quand même de façon assez importante, eh bien, on va avoir beaucoup de difficultés à maintenir notre état d'éveil. Mais si c'est un petit creux, comme chez toi, dois-je comprendre, eh bien, ça ne va pas trop t'affecter,
oui.
Ni affecter la plupart des gens, comme moi. Moi, je n'ai pas de coup de barre l'après-midi, mais je suis consciente qu'il y a quand même un petit creux qui se manifeste dans ma température corporelle, parce que je le sais, parce que je suis une scientifique et puis je suis au courant de ça. Donc, selon le creux, petit ou gros, ben, on peut se sentir fatigué, se sentir endormi.
Oui, oui.
Donc, si vous faites partie de ces personnes qui s'endorment l'après-midi, il y a peut-être une solution. Alors, pensez au pays où tout est fermé, des boutiques au bureau jusqu'aux banques de midi à 16 heures. Il y a beaucoup de pays, hein. Quand on voyage un peu, on se rend compte que, ben, en Espagne, par exemple, ben, tout est pratiquement fermé de midi à 16 heures. Pourquoi ça?
Oui, c'est la chaleur, c'est...
C'est l'heure de la sieste.
Oui, la sieste. En France aussi, oui, mais pas jusqu'à 16 heures, parce que, bon, voilà, ouais. La sieste, on fait pas... En France, ce que je savais, que même dans les pays francophones, les pays qui ont été colonisés en Afrique, les 14 pays francophones aussi, les gens font la sieste à midi. Ça bon. Ferme les bureaux, ils s'en vont manger, ils font la sieste avant. Il y a des gens qui font leur sieste au bureau, ils vont pas chez eux à la maison.
Oui,
oui, carrément, quoi. Ils ferment la porte du bureau, ils s'étendent quelque part entre deux chaises, là, et puis c'est parti, quoi.
Ah ben oui, mais ces pays-là ont peut-être la solution.
Voilà, où ils vont dans les parcs où il y a de l'ombre, parce qu'il fait vraiment chaud, et ils vont se mettre dans les parcs, et puis bon, se ferment un peu les yeux, quoi.
Ben, c'est ça, oui. Mmh. Alors, ben, ces gens-là vivent en harmonie avec leur température corporelle, peut-on
oui, oui. Mais en Espagne, c'est un peu exagéré. Le fait qu'ils reviennent de midi à 16 heures, c'est beaucoup quand même. Oui,
ouais, mais quand même.
Mmh. Moi, j'étais surpris quand j'étais allé en Espagne, d'ailleurs, de voir ça. J'ai dit, oh, zut. Ah. Ah, là, là. Et puis, ça mange très tard le soir.
Ben, c'est ça, oui. Alors, ils décalent un peu leur rythme. Et puis, ben,
c'est ça.
C'est pas mal. Et puis, un peu comme tu me l'as raconté, ce que tu manges le midi, ça pourrait influencer ton état d'éveil dans l'après-midi.
Oui.
Alors, j'ai plein de choses à dire sur ça. Donc, je pense que je vais garder ça pour une prochaine chronique.
D'accord.
Pour avoir assez de temps pour vous parler de mes deux livres du printemps.
Oui, les deux suggestions, oui, les deux découvertes.
C'est sûr, ce sont des livres qui sont parus ce printemps. Chez une maison d'édition que j'aime bien, parce que cette maison d'édition québécoise se spécialise en alimentation et en nutrition.
Oui.
Et j'ai parlé de K.O. Édition. Donc, K.O. Édition a publié deux livres. Un premier qui s'appelle « Joliment, mes carnets de saison printemps-été ». Et c'est de l'autrice José Distasio, qui, pour ceux qui ne la connaissent pas, est une animatrice et autrice culinaire québécoise. Alors, José Distasio, elle a fait des émissions de radio, de télé, et elle partage ses recettes chouchou pour le printemps et l'été avec des aliments tout simples, des aliments frais et
des recettes chouchou.
J'ai découvert des accords qui sont surprenants dans ce livre. Par exemple, la salade de pêche et de tomates.
Okay.
Ah, intéressant. Ou encore une recette qui ne requiert que deux ingrédients. Alors, il s'agit des pogo à l'italienne. Et ces pogos-là, ben, ils sont cuits au four, donc ça les rend un peu plus nutritifs que les pogos qu'on frit dans l'huile.
Ah bon?
Ah ouais, ouais, ouais. Donc, dans ce livre, y a aussi des conseils, des belles pensées sur la joie de vivre, l'horticulture, et même, il y a même des conseils de couture. Donc, c'est un livre qui se démarque, et puis j'avais pensé que ça pourrait vous intéresser. Il est déjà en librairie.
D'accord.
Très joli livre. Et ma seconde suggestion de lecture, ça s'intitule Racine. C'est toujours chez K.O. Édition. Et l'autrice, elle s'appelle Fissoun Erkan. Et Fissoun, c'est une personne qui exerce un métier de bouche, les restauratrices, et elle cuisine en harmonie avec les saisons. Alors, elle nous explique dans son livre comment elle a pris racine au Québec. Elle a grandi dans un petit village en Turquie. Donc, elle nous explique comment ça s'est passé, son enracinement au Québec. Et il y a même une section au début du livre qui s'intitule « Comment lire ce livre ». Alors, c'est tout à fait original.
Elle nous apprend comment lire son livre, quoi.
Oui, c'est
elle nous tient sous forme de guide, c'est rare.
Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Mais c'est intéressant, cette story. Et vous aurez plein de conseils pour cuisiner en harmonie avec les saisons, la nature et l'environnement, contrer le gaspillage alimentaire, ce qui est drôlement important, les temps qui courent, et vous serez surpris, je l'espère, comme moi, par certaines recettes dont le titre est « Le riz aux bijoux ». Vous avez bien compris, le riz aux bijoux, le sirop de pissenlit, vous savez, ces belles petites fleurs jaunes qui fleurissent présentement sur nos pelouses, sur nos espaces verts.
Et oui, bien, on les trouve partout là maintenant.
C'est ça. Alors, vous pouvez en faire un sirop qui vous coûtera pas trop cher et...
Faut pas me le demander. Faut pas me le demander pour t'en faire goûter. Hein.
Moi, j'ai commencé à cueillir des pissenlits.
D'accord.
Alors, on appelle ça la cuisine locale.
La cuisine locale,
oui. Okay. Oui, devant chez moi, là. Et il y a une recette, qui s'appelle poulet, entre guillemets, aphrodisiaque. Alors, voilà, ça perdure, c'est intéressant. On s'amuse avec les cuisines aphrodisiaques.
C'est tout que le beau temps arrive.
C'est le printemps.
L'aphrodisiaque. Je me rappelle, tu nous en avais parlé ici à des précédentes chroniques, d'ailleurs.
J'en ai parlé, puis pourquoi pas.
Les aliments aphrodisiaques. Merci. Oh, on a la fin déjà.
On est déjà à la fin, donc on se retrouve la semaine prochaine. Et puis chez K.O. Édition,
oui.
N'oubliez pas mes carnets de saison, printemps, été et racines.
Merci beaucoup, Louise.
Thibault. Je t'en prie.
Bonne semaine et à bientôt.
Merci, bon sirop de pissenlit.
Voilà. Je vais te faire goûter.
Pour faire ça.
Voilà, au revoir.
Alors, bonne semaine.
Merci à toi aussi.
Merci.
Boom, this is Conqueror, and I'm here with my little sister in Rosie. And we're going to cover Adele's song Hello Today, reggae style here in Pisse, Solomon Islands. Tell them!
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like me to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Between us.
C'était la complicité de Konkara et Rosie Delma. Hello. Voilà. Asie Pacifique et à le niveau, selon l'agence France Presse, le niveau de mer de la Nouvelle-Zélande augmente plus vite que prévu. Voilà. Selon cette étude de New Zealand Sea Rise publiée aujourd'hui, lundi 2 mai, là. Oui. Le niveau de la mer augmente deux fois plus vite que prévu dans certaines parties de la Nouvelle-Zélande. Deux des plus grandes villes du pays sont menacées. Alors, donc, les projections qualifiées d'un peu terrifiantes par un aspect d'ailleurs montrent que certaines zones le long du littoral de la Nouvelle-Zélande s'enfoncent déjà de 3 à 4 mm par an. Par an. Je n'ai pas dit par tous les 10 ans, j'ai dit bien par an. Donc, selon ces experts, les autorités disposent de moins de temps que prévu pour planifier la manière dont ils peuvent s'adapter aux conséquences du changement climatique, notamment une relocalisation des habitants vivant le long des côtes. Qu'est-ce qu'il dit Tim Nash, qui dit « Nous avons encore du temps, mais nous n'avons plus le temps de rester les bras croisés. » Le professeur de l'Université Wellington de Victoria, qui a co-dirigé cette étude d'ailleurs, et la capitale Wellington pourrait subir une élévation de 30 cm du niveau de la mer d'ici 2040. C'est pas loin ça. Dans un scénario qui ne devait pas arriver avant 2060, mais des inondations occasionnant des dégâts pourraient aussi avoir lieu chaque année. Voilà, le littoral sud-est est le plus exposé. La Nouvelle-Zélande, voilà, deux petits pays. Voilà, dont les craintes sont aussi fortes pour Auckland, qui est c'est la capitale avec 1,7 million d'habitants et la plus grande ville du pays d'ailleurs, selon les prévisions. Le niveau de la mer augmente 50% plus vite sur le front de mer du centre-ville et dans plusieurs banlieues d'Auckland. Ça fait peur. Voilà, c'est bien beau d'habiter, d'avoir une ville en bordure de mer, mais avec le réchauffement climatique, ce n'est plus jojo, comme on le dit. Voilà. Donc les données montrent que le littoral sud-est de l'île du Nord, plus peuplé, est le plus exposé, menacé. De plus, si le niveau de la mer au niveau mondial augmentait d'environ 50 cm d'ici à 2100, cette hauteur devait atteindre près d'un mètre dans de grandes parties de l'archipel, car la Terre s'enfonce dans le même temps. Voilà, donc avant d'arriver à ce constat, les experts ont composé de dizaines de scientifiques locaux internationaux financés par le gouvernement, ont mené ces recherches pendant 5 ans. Voilà, une carte est également mise à disposition des citoyens afin qu'ils puissent constater par eux-mêmes les risques de montée des eaux dans leur région. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. Alors si vous allez en vacances là-bas en Nouvelle-Zélande, ayez la curiosité de poser des questions aux habitants du bord de la mer pour savoir s'ils ont peur ou pas. Restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire et la première pièce musicale, je reçois mon invité qui va venir parler de cinéma. Voilà, cinéma, c'est la scénariste et présidente de la Société des auteurs de radio, de télévision et de cinéma, la Sartec, enfin des finalistes du prix Jacques Marcotte. Allez, à tout de suite après la petite pause publicitaire et la pièce musicale.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas. Thank you.
The Elder Statesman, Transalpine Express, voilà, Street Jazzy. Voilà, mon invité est déjà au bout du fil. On va parler un peu du cinéma. Chantal Cadieux, qui est scénariste et présidente de la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma, c'est la Sartec. On va parler des finalistes du prix Jacques Marcotte du meilleur scénario du long métrage de fiction francophone 2022. Voilà, bonjour. Chantal Carr.
Bonjour. Bonjour.
Comment allez-vous? Vous m'entendez bien?
Bien, bien, merci. Merci de m'inviter pour parler du prix Jacques Marcotte, pour parler d'un prix donc pour les scénaristes.
Oh oui.
On ne parle pas très souvent des scénaristes, alors ça me fait vraiment plaisir. J'espère que je vais pouvoir répondre à vos questions.
Oh oui, non, c'est une conversation qu'on va avoir. C'est pas un interrogatoire. Merci Chantal d'avoir le temps de venir nous parler de ça d'ailleurs. Alors, comment ça s'est passé le 30 avril? Ça s'est bien passé, la remise des prix?
Oui, ça s'est bien passé, la remise des prix. Nous, ce qu'on devait faire, c'était donc de donner un prix à la Sartec en collaboration avec la Caisse des Jardins et de la Culture.
Oui.
On remet donc une bourse quand même de 10 000 $. C'est un prix de 10 000 $ qui vient avec cette récompense-là pour le meilleur scénario de l'année, donc en francophone québécois. Donc, on a remis ce prix-là à la soirée clôture des rendez-vous du Québec Cinéma 2022. Je garde encore l'expression les rendez-vous cinéma, mais non, c'est les rendez-vous Québec Cinéma maintenant qu'on les
a. Oh oui, rendez-vous et Québec donc, Cinéma, oui.
Québec Cinéma, c'est ça. Alors, on a remis ce prix-là durant cette soirée-là, juste avant la diffusion du film de clôture.
Oui.
Donc, oui, c'est un moment important pour nous, pour souligner justement le travail de tous les scénaristes. Dans le fond, c'est que tous les films québécois de l'année étaient éligible. Donc, à ce prix-là, on a choisi 5 finalistes et les gagnants, donc, étaient un tandem d'auteurs qui ont écrit Les oiseaux ivres, donc Sarah Michara et Ivan Gerbovic, qui a réalisé le film. Donc, on a récompensé ce scénario-là. Il y en avait plusieurs bons scénarios, là. Il y en avait plusieurs, c'était difficile. On était trois membres du jury et on a décidé ensemble, mais on était unanimes, là. C'était vraiment un scénario qui nous a beaucoup plu,
oui.
Tous les trois, donc Claude Lalonde et...
Catherine Léger. Mais pourquoi est-ce que la présidente Chantal Cadieux fait partie du jury?
Ben, on m'a demandé de faire partie du jury.
Oui.
Et cette année, pourquoi j'ai accepté? Parce que j'ai rarement le temps de faire ça. C'était la première fois de ma vie. J'avais déjà participé à un jury il y a plusieurs années.
Oui.
Mais c'est comme j'écris beaucoup. Moi, j'écris de la série télé. J'écris énormément. Je n'ai pas le temps de participer. J'aimerais souvent le faire, mais je n'ai pas le temps. Et là, j'étais vraiment en arrêt d'écriture parce que ma série à moi télé s'est terminée donc le 4 avril dernier en diffusion.
Oui.
Moi, mon écriture était terminée depuis le mois de novembre dernier. Donc, je suis un petit peu en congé d'écriture. Et là, je me suis dit, je vais pouvoir participer s'il y a un jury qui a besoin de moi. Alors, j'ai participé à certains jurys, dont celui du prix Jacques Marcotte. Ça me fait vraiment plaisir parce que pour moi, le scénario... Moi, je suis scénariste, je réalise pas.
On va faire un clin d'œil à votre parcours personnel en deuxième partie de notre conversation,
oui,
d'ailleurs.
Mais voilà, c'est que je me disais, le scénario, il y a eu un prix, pour ça, c'est seulement 3 ans que ce prix-là existe.
Oui.
Alors, je n'ai jamais gagné ce prix-là, je n'ai jamais été éligible à ce prix-là.
Mais vous avez déjà gagné d'autres prix quand même, Chantal.
Ben oui, j'en ai gagné d'autres.
Mais ouais.
Je me dis, c'était pour moi important de participer parce que je me disais... C'est important qu'il y ait un prix pour souligner le travail des scénaristes,
dont
on ne parle pas très, très souvent.
Oui, c'est vrai, parce que là, bon, en deuxième partie de notre conversation, de notre interview, on va parler un peu de votre carrière personnelle, pour ceux qui veulent savoir plus, pour qu'on donne des informations. Vous avez eu...
Okay.
Voilà. Et puis, bon, c'est avec fierté d'ailleurs que la Société des auteurs de radio-télévision a dévoilé cette nomination d'un finaliste, c'était le 26, là, je me rappelle bien. Le 26 avril, les reprises de prix.
Oui.
Voilà. Et puis, les 5 finalistes, les 5 films finalistes de Caroline Monet, Daniel Vachon avec Baud Léger, Normand Bergeron, Benoît Pilon et Marc Robitaille avec le club Villand. Mais ce sont. De toute façon, moi, je dis, quand ils sont nominés, même s'ils n'ont pas gagné quand même, c'est une fierté, non?
Ben oui, c'est une fierté parce que c'est des bons scénarios. Là, on avait 5 finalistes, puis on se disait c'est de bonnes histoires, c'est des univers qui sont bien racontés, c'est des beaux personnages, bootleggers avec des personnages de femmes aussi forts. Le Club Vinland, c'était tellement tricoté finement. C'est une reconstitution donc historique aussi à une époque où donc un film avec des personnages d'hommes, pas beaucoup de personnages de femmes dans celui-là. Mais avec une histoire, avec vraiment, c'était maîtrisé comme écriture, parce qu'on a un Marc Robitaille aussi à l'écriture, qui est un grand scénariste.
Oui.
Marc écrit aussi maintenant pour la télé, puis il a écrit de très bons scénarios, donc c'était des auteurs d'expérience aussi. Donc c'est vraiment, on avait aussi Le meilleur pays du monde de Kinan Leduc. L'autre, j'imagine que vous avez sous les yeux le dernier, dont ça m'échappe.
Oui. Kinan Leduc, c'est Le meilleur pays du monde.
Oui, très, très, très belle histoire aussi, tout un univers. Et moi, ça m'a touchée aussi d'entendre que ce scénariste-là, qui est aussi réalisateur, si je ne m'abuse, mais qui disait à quel point c'était important pour lui la langue française. Et donc, c'était touchant, des beaux personnages, un trio un peu... un trio improbable de personnages qui se retrouvent, et c'est très, très touchant. Donc, très bien, aussi une très belle écriture. Mm-hmm. Donc, c'était vraiment... Et l'autre, il m'en manque un, là, je veux nommer les quatre...
Sarah Michara et Yvan Govic,
oui,
avec Les
gagnants.
Oiseaux ivres.
Oui, Les oiseaux ivres, notre gagnant. Puis, est-ce que je les ai tous nommés? Il me semble qu'il y avait un cinquième.
Albéric Ortenèche.
Oui, Ortenèche, avec La contemplation du mystère.
Oui.
Aussi, un univers, des personnages drôles aussi. Il y avait beaucoup d'humour. C'est une quête d'un jeune homme. Son père est décédé. Il découvre que son père faisait partie comme d'un club sélect de chasseurs. Donc vraiment un univers, une signature. Vraiment une très, 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 très belle découverte pour moi. Je ne connaissais pas cet auteur-là qui est réalisateur aussi. Souvent, les auteurs au cinéma vont écrire et vont réaliser leurs œuvres, ce qui est moins le propre. En télé, on va avoir des scénarios.
Ils sont dans l'ombre. Ils ne sont pas devant la caméra.
Non, ils sont pas devant la caméra, c'est sûr. Ils sont dans l'ombre. Ils sont très peu de cinéastes à pouvoir écrire, réaliser et jouer. On en a quelques-uns là au Québec, là, mais ils sont peu nombreux à avoir tous ces talents-là. Donc, c'est bien quand on voit tout ce travail d'équipe-là aussi autour d'un scénario, d'une histoire, d'un univers. Donc, cette année, vraiment, les 5 finalistes donc étaient... C'est vraiment de très bons films. J'espère que ces films-là vont avoir une belle carrière. On va les voir parce qu'évidemment, avec la pandémie,
on le leur souhaite.
On a moins vu les films. Et que les gens reprennent goût aussi à aller au cinéma pour les voir. Parce que si on ne se déplace pas en salle pour voir les films, ils ne restent pas longtemps à l'affiche.
Ouais.
Et tout ça s'ensuit. Là. Donc, oui, on espère aussi que c'est une belle promotion aussi pour ces films-là. Là.
Voilà, surtout que la musique, ça ne cesse de tomber. Et Chantal, on va faire une petite pause musicale, et puis on va écouter Fred Federin qui nous chante Silence, et puis on vous revient.
Parfait.
Merci.
Va t'amener au silence pour entendre juste la murmurance de ta voix une fois. On va t'amener où il fait noir juste pour voir la petite brillance de dans tes yeux un feu. Y'a plein d'affaires qu'on dira pas. Y'en a toujours qu'on dit jamais, puis qu'on dit jamais. On va t'amener dans un désert, grand comme la mer, te voir courir à perdre l'horizon. Y'a plein d'affaires qu'on dira pas. Y'en a toujours qu'on dit jamais, puis qu'on dit jamais. Voir si ton cœur battra l'amour encore. Y a plein d'affaires qu'on dira pas. Y en a toujours qu'on dit jamais, puis qu'on dit jamais.
Fred Bellerin, silence. Oui, mon invité est toujours avec moi, Chantal Cadieux, qui est scénariste et présidente de la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma, la Sartec. On parle des finalistes du prix Jacques Marcotte du meilleur scénario de long métrage de fiction francophone 2022. Chantal.
Oui.
Alors, est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu pour monsieur et madame tout le monde? En quoi consiste le travail d'un scénariste?
Un scénariste, c'est quelqu'un qui va écrire un scénario, donc une histoire,
oui.
Qui va créer un univers,
oui.
Qui va créer des personnages, qui va raconter cette histoire-là, donc sous forme de scénario,
oui.
qui a une histoire à raconter, qui a des personnages. Donc, c'est vraiment... Le scénario, ce qui est à la base de tous les films, de tout, quand on n'a pas de scénario, c'est assez difficile, premièrement, d'aller chercher un financement, hein, obtenir les sous pour faire le film ou la série télé.
Oui.
Donc, c'est vraiment à la base de tout. C'est le texte sur lequel on va, donc un réalisateur ou une réalisatrice va se pencher,
oui.
Pour donc le mettre en image avec toute une équipe, là, le directeur photo, la directrice photo qui vont arriver avec le casting, les personnages, la direction artistique. Donc le scénario, c'est vraiment le texte qui est à la base de tout, qui est l'histoire, tous les dialogues sont écrits dedans, donc tout ce que les personnages vont se dire, toutes les quêtes des personnages donc sont dans le scénario.
Mmh.
Donc, c'est des textes qui parfois vont être difficiles à lire pour les gens. Et ben, on lit et on se dit, ah ben, on a une description de ce qui se passe, on a les dialogues, on a toute la structure. Donc, le scénario, c'est le film sur papier. Dans le fond, c'est l'histoire sur papier.
Sur papier.
Qui attend donc une équipe qui va arriver et prendre le texte pour en faire une œuvre cinématographique, donc une œuvre filmée, jouée par des comédiens, des comédiennes. Et c'est ça. Donc, c'est à la base, hein, c'est à la base de tout. Donc, les auteurs vont travailler des années sur des scénarios, là, parce qu'on fait aussi de la recherche. Hein, il y a des sujets dont on veut parler, mais qu'on ne maîtrise pas.
Mmh.
On a des personnages qui vont avoir des carrières de médecins, de policiers, d'avocats. Donc, il faut aussi faire une recherche, hein, parce qu'on n'a quand même pas, on connaît pas tout. Quand on écrit, on a un désir de raconter quelque chose.
Oui.
On peut aussi partir d'une histoire personnelle, partir d'un thème qui nous tient à cœur. Et là, ben, on travaille fort pendant plusieurs années. Hein, il y a de la recherche qui peut se faire. C'est pas rare, moi, que j'entends qu'une scénariste a passé 10 ans, 5 ans, 15 ans à écrire un scénario.
Wow.
Pour enfin trouver une équipe qui va le prendre, ou même ceux qui le réalisent eux-mêmes, eux aussi doivent passer toutes les étapes, donc de faire accepter ce scénario-là par les institutions. Ici, notre cinéma est quand même financé par...
Oui, pour avoir le financement,
donc,
oui.
Ben oui, alors là, il faut passer toutes ces étapes-là, que le texte, que le scénario soit comme accepté, approuvé, financé. Donc, c'est long, hein? Il y a beaucoup de réécriture. On réécrit plusieurs versions de scénarios avant que ce scénario-là voit le jour. Fait que quand on voit un film Moi, quand je vois un film au cinéma, là, quand je le vois arriver à l'écran ou à la télé, on le sait que c'est pas facile. Il y a plusieurs étapes et c'est souvent plusieurs années de notre vie en tant que scénariste qu'on va passer à travailler et polir.
Oui, oui, oui. Vous savez de quoi vous parlez de toutes les façons. Voilà. Chantal.
C'est très long, donc ça prend beaucoup de courage pour écrire. Et quand ça arrive, là, et c'est là, moi, je me dis toujours, tu sais, parfois, on va dire, ah, c'est pas bon ce film-là. Ah, non, c'est pas bon cette série télé-là. Mais quand, moi, je sais tellement tout le travail qu'il y a derrière ça pour arriver avec un scénario au grand écran. Dites-vous que les gens ont travaillé très fort et les auteurs, là, ils ont écrit pendant souvent plusieurs années. Tant mieux, ceux pour qui ça se passe très rapidement, on les félicite, on est content pour eux, mais souvent, c'est un travail de longue haleine, de plusieurs années d'écriture pour voir notre scénario arriver au grand écran.
Mais vous n'avez pas eu peur quand vous êtes sorti de l'École nationale du théâtre en écriture dramatique. Vous êtes l'auteur de premiers, vous êtes auteur scénariste de plusieurs séries d'ailleurs. Annuelle Providence 2005 à 2011 et Mémoire vive 2013 à 2017, diffusée sur les ondes de ici Radio-Canada, plusieurs fois nommée au gala des prix Gémeaux dans la catégorie meilleur texte série annuelle, mais c'est tout un parcours. Et puis je me dis, elle n'a pas eu peur, mais sachant bien qu'il y a du travail là-bas en arrière, elle s'est lancée là-dedans.
Oui, mais là, je travaille. Moi, je suis une travaillante. Je travaille beaucoup, tous les jours.
Oui.
Moi, je suis une ouvrière.
De l'écriture.
Je travaille au soir. J'écris. Je pense que...
Une dizaine de pièces de théâtre. C'est pas vrai.
Oui, j'ai écrit moi deux scénarios de films. Donc, un qui était une adaptation d'un roman de Christine Brouillette.
Oui.
Qui s'appelait Le collectionneur. Donc, qui a été réalisé par Jean Baudin. Donc, une adaptation d'un roman. Et j'ai fait un scénario original, Elles étaient cinq, donc mon scénario qui a été réalisé par Justine Côté il y a quelques années.
Oui.
Mais je vous dirais que faire des films au Québec, moi, je trouve ça difficile. C'est difficile d'obtenir un financement. Il y a plusieurs projets déposés, des projets de belle qualité, tout ça, mais il y a très peu d'élus, comme on dit, parce qu'il n'y a pas tant d'argent tout ça pour faire des films au Québec. Donc, moi, je fais de la télé. J'ai trouvé ma niche, je dirais, en télé, parce que je peux écrire tous les jours et voir ce que j'écris être joué, être produit, être réalisé. Mm-hmm. Donc, ça j'ai l'impression de travailler, de faire mon métier et d'apprendre encore tous les jours.
Oui, pour les...
J'avais un autre projet de film, un scénario, puis il n'y a pas été financé. Les gens me disent « Ah, mais pour toi, ça doit être facile, tu connais des gens. » Mais non, c'est pas plus facile écrire un film.
C'est tout un marathon.
Même si moi, j'écris beaucoup et depuis longtemps. Il y a toutes les étapes à passer. Et comme je dis, il y a très peu d'élus. Donc, les films qu'on voit dans notre cinéma, quand ils sont quand on peut les voir, là, on se dit « Les gens ont travaillé fort. » Puis il y a personne qui l'a volé. Là.
Non, c'est du... je vous dis, je vous tire mon chapeau, hein, vous et toute l'équipe et tous vos collègues aussi qui font le même travail que vous. Je pense bien que la prochaine fois, je vais vous garder beaucoup plus longtemps. On a la fin de l'émission comme ça. Oui. Okay. Oui.
On peut jaser. Ah, moi, je peux jaser. Moi, je suis une auteure, mais souvent, moi, je dis maintenant autrice aussi parce que je veux que ça s'entende, qu'on sache que c'est une femme qui écrit. Donc, comme j'écris...
Mais vous êtes une femme de parole aussi. Vous êtes une femme de communication aussi. Oui.
Alors, quand j'ai une opportunité, je dis, ne m'invitez pas à vos émissions parce que je parle beaucoup trop.
La prochaine fois, je vais vous garder pour toute l'heure d'émission.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie. Mais Chantal Cadieu, scénariste et présidente de la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma, la Sartec. Vous avez parlé des cinémas et puis on a brossé un petit clin d'œil à sa propre carrière personnelle. On termine en beauté, en musique avec Naïma Ké et Kelly Kumalo au milieu. Merci à toi, Maurice. Et puis, on se retrouve demain. Je dis merci à Chantal Cadieu et je dis merci aussi à Luz Thibault qui est venu nous parler de nutrition. Et on se retrouve à toi. Maurice, merci à toi. Et on se retrouve demain à la même heure sur les ondes de Canal M. Et sur ce, je vous dis, voilà. Ciao. Prenez soin de vos minutes. Sava pasa misa, wasange makone. Uthando lwethu luvutha amalanga bi, uthando.
raconte un nouveau livre jeunesse. Un rendez-vous hebdomadaire à la radio, l'émission n'étant pas disponible en téléchargement pour respecter les ententes avec les éditeurs. Marie raconte, pour le plaisir de se faire lire une histoire, les dimanches à 8h30, en rediffusion le mardi 9h et le jeudi 13h.
Tando la sama sulwini, sulwini.